Jingle, jingle, jingle.
Bonjour, vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Aujourd'hui dans le studio avec nous, Laetitia Lalibi-Béni, Marie-Laure Communal et Nolwenn Ledo. Bonjour les filles.
Bonjour.
Et c'est une émission qui est consacrée à la deuxième partie de l'émission qu'on faisait déjà la semaine dernière sur le théâtre d'Agitprop. Donc, comme je le disais, la semaine dernière, on a fait toute une émission sur ce mouvement artistique qui a eu cours entre 1917 et 1932. On peut rappeler brièvement ce que c'était ce genre de théâtre. Donc, c'était souvent amateur, didactique, joué par et pour des ouvriers. Ce théâtre provoquait la frayeur des bourgeois parce qu'ils avaient pour but, ce théâtre avait pour but d'évier la conscience des exploités et les inciter à s'organiser pour mettre à bas le système capitaliste, son lot d'injustice et d'exploitation. Donc ce théâtre s'est arrêté avec la mise en place du stalinisme. Donc c'est fait petit à petit. Parce que dès les années 20, il y a l'étau qui se resserre sur les troupes d'agitprop, et en 1934, avec l'avènement du réalisme-socialisme, l'esthétique dominante officielle condamne et relègue aux oubliettes ce théâtre qui était spontané, populaire, de cabaret. Et c'était donc la fin de l'agitprop dès les années 30, dès le début des années 30. Donc aujourd'hui, on avait envie un petit peu de se consacrer un peu plus sur une des troupes que constituait le mouvement d'agitprop. Donc le mouvement d'agitprop, c'était des milliers de troupes, des milliers d'initiatives en Europe, aux États-Unis et particulièrement en Russie. Et on va parler d'une troupe qui a fait beaucoup parler d'elle à Moscou, qui a fait parler d'elle dans toute l'URSS, jusqu'à l'étranger, jusqu'en Allemagne. Et donc, quelle est donc cette troupe? Il s'agit de la Blouse Bleue. Mais avant d'en dévoiler plus, je vous propose que on démarre directement sur une des pièces qui était jouée en 1925 par cette troupe d'agitation propagande, d'agitprop. Une pièce donc créée en 1925 par la Blouse Bleue, qui est un exemple assez typique de pièce d'agitprop parce que, elle, comme un peu toutes ces pièces, elles remettent en cause les modes de vie anciens et l'émancipation matérielle des femmes. Donc, pour la mise en scène, il y a quelques notes préliminaires qu'on va vous lire. Le nombre de femmes prenant part au spectacle peut être illimité selon les forces dont dispose le groupe. Plus les actrices sont nombreuses, mieux cela vaut. Le travail ménager est une figure qui incarne l'économie domestique. Il est surchargé autant que faire se peut d'instruments de cuisine, pots, tasses, casseroles, etc. La mise en scène comprend différentes phases. Au début, c'est le style emphatique de la déclamation illustrée de banderoles. Avec l'entrée en scène du travail ménager, l'action s'oriente vers le grotesque joyeux et s'achève par des couplets accompagnés de danses gaiement ironiques. Durant la lutte avec le travail ménager, il est bon de déployer une série de banderoles, cantines, ateliers de couture, blanchisserie, etc.
Bye.
Sage, deux ouvrières, interprétées donc aujourd'hui par Marie-Laure et Laetitia, et Le Travail Ménager, qui est interprété par Nolwenn Ledo. Dans une main, il tient une louche, dans l'autre une serpillière, il porte un tablier. Les ouvrières brandissent des banderoles fixées sur des bâtons où il est écrit
« 8 heures de travail, 8 heures de repos,
8 heures de sommeil tous les jours ».
Les ouvrières, elles déclament à tour de rôle.
L'ancien esclavage des femmes, c'est fini.
Nous allons composer un article
pour proclamer bien haut 8 heures de boulot, 8 heures de repos, 8 heures de dodo.
Voilà ce qu'il nous faut à tous, hommes et femmes. Mais la femme esclave
se repose et dort moins.
Elle retourne leur banderole où il est écrit
la femme travaille 62,2%, sommeil 28%. Repos 9,8%.
L'ouvrière travaille 14h55 minutes, dort 6h44 minutes, se repose 2h21 minutes.
L'ouvrière des villes et des hameaux
de travail ménager est accablée.
Regardez ces petits tableaux
par Kruspaskaya et Strolimine rédigés.
Nous crions bien haut.
Le communisme et l'esclavage ménager
ne peuvent être conciliés. Esclavage à dégager.
Elles chantent en exécutant des mouvements et viennent se placer de part et d'autre de la scène.
Nous voulons l'égalité entière. Nous voulons édifier la vie commune. Nous vous appelons tout obstinément à la guerre contre les forteresses des principes racis.
Pour que les forces des ouvrières ne soient pas épuisées, que l'usine édifie maintenant une nouvelle vie, qu'on ouvre une blanchisserie, un atelier de couture, une pouponnière, des jardins d'enfants et une cantine.
Le travail ménager fait son entrée en chantant.
Ho ho ho, maman m'aimait et me choyait, n'y voyant jusqu'à la mort goutte. À l'ouvrière toutes ses forces je prenais, je la décervelais bien toutes.
Sur un air de claquette.
Et tout fourral de chagrin, je t'avais un jour dans mes filins. Ça va mal. Lave, ravaude, chauffe, étuve, jette l'eau chaude à toute allure, sans dire ouf. La lessive et tous les trous au ravaudage, et les gâteaux à l'enfournage au galop. Lavez par terre, vite, la couture, du travail avec des injures, allez, oust, à gogo. Oublie donc de te reposer. J'ai mal devant, derrière, aux côtés, pas un haut. Étouffe et râle de chagrin, je t'avais un jour dans mes filins, ça va mal.
Les ouvrières se jetant sur lui, elles lui assènent des coups de banderole.
À nous la cantine,
l'atelier de couture
et la blanchisserie.
Et nul.
Le travail ménager abandonnant tout son attirail.
Aïe, petite mère, aïe, petit père.
Et un coup de pouponnière par-dessus le marché.
Et le deux.
Au secours, on me roue de coups.
Pour le mode de vie nouveau, mon coco.
Et le trois.
Arrêtez, ça suffit.
Prends donc tes vieilles nippes et ton barda.
Elle lui jette à la volée sa louche et le reste. Elles emboîtent le pas avec irritation au travail ménager, toutes les deux se mettant à chanter.
Les femmes aujourd'hui sont futées. Elles font la grève sans hésiter, frappent le pot à coups de poing et du lait en sortira bien.
Avec les femmes d'à côté, je n'irai donc en vain jacter. Si tu n'es sotte maintenant, fréquente le club le plus souvent.
La porte de l'étude est pour toutes ouverte. La cuve et le réchaud, c'est fini. Pourquoi repasses-tu, simplette, quand il y a la blanchisserie?
Je vivrai sans Dieu désormais. Les icônes, je les jetterai. Nous mènerons une autre vie à bas l'église et les souleries.
Pas de couple au monde mieux assemblé. Au soviet de Moscou, mon mari a été désigné. Quant à moi, je suis déléguée et le petit sont à la garderie.
Je ne veux pas être une esclave. L'obscurantisme, je le brave. Le passé, je le renverserai. Selon Illich, je vivrai.
À Gabriel, j'ai même dit, tu ne peux pas croire au maudit. Partout où le soviet est là, le malin ne se trouve pas.
Ouais.
C'était donc une pièce qui s'appelle « Le travail ménager et l'ouvrière », qui était donc une pièce qui avait été donc créée en 1925 par la fameuse troupe La Blouse Bleue. Mais donc, comme je le disais tout à l'heure, quelle était donc cette fameuse troupe La Blouse Bleue ? Alors déjà, c'est une troupe qui s'est créée en 1923 par des étudiants de l'Institut Moscovite de journalisme. Donc c'est à partir de cette école de journalisme qu'il y a cette origine particulière qui lui confère cette nature particulière, parce que c'est pas vraiment une compagnie ni un collectif d'artistes, mais c'est une forme de journal vivant. Alors qu'est-ce qu'un journal vivant ? C'était tout simplement l'illustration de l'actualité en dansant, en chantant, en mettant en scène, en jouant en fait ce qui se passait. Et ça avait pour but d'inciter les travailleurs, les ouvriers à se révolter contre l'ordre établi. Donc ça n'avait pas seulement un caractère d'illustration, mais c'était dans une idée d'agitation et de propagande, et donc pour provoquer une réaction. Donc ce théâtre était exclusivement politique et c'était des informations journalistiques qui rendaient compte des événements au jour le jour. C'était en fait en somme une manière didactique et agitatoire d'informer les ouvriers sur l'actualité. Donc on l'a vu, ça informe les problèmes, la vie des ouvriers sur les questions de l'exploitation homme-femme et plus particulièrement du travail domestique. Et pour ça, en fait, il se servait de ce qu'ils appellent la parole vivante, qui constituait son mode d'expression. Avant d'expliquer un peu plus avant de quoi il s'agissait, et puis de lire peut-être d'autres textes, je vous propose de faire une petite pause musicale et d'écouter Patti Smith, People Have the Power.
Fair, but in my sleeping, it was broken. But my
Donc vous êtes bien sur le théâtre de la Gamelle. Nous consacrons une deuxième émission au théâtre d'Agitprop. Et donc vous venez d'entendre Patti Smith, People Have the Power. Pour revenir donc sur le focus qu'on fait aujourd'hui sur une des troupes d'Agitprop, donc c'était aujourd'hui une émission consacrée, donc c'est toujours aujourd'hui une émission consacrée sur la blouse bleue. Donc la blouse bleue, en quelques chiffres, qu'est-ce que c'est ? À la base, c'est une troupe qui est à Moscou et dont les participants sont entre 7, 20, 30, 30 personnes. Et au fur et à mesure des années, plus de 7000 collectifs se sont revendiqués et ont pris le nom de blouse bleue. Donc en fait, ça a été un phénomène absolument gigantesque avec des blouses rouges, des blouses grises et partout en fait, même en Europe, en Allemagne, jusqu'aux États-Unis, des groupes se revendiquaient de cette forme de journal vivant. Donc c'est-à-dire l'illustration de faits d'actualité par la parole, le geste, le chant, la danse. Et c'était donc des créations collectives. On en parlait tout à l'heure en off avec Laetitia notamment. C'était vraiment des ateliers très mélangés avec des musiciens, des décorateurs, des scénaristes qui décortiquaient l'actualité, qui le mettaient en fait en scénario et qui après le montaient. Et puis on l'a vu la semaine dernière. Leur moyen en fait de propagande pour jouer leurs petits textes, c'était aussi bien dans des trains. Il y avait des trains qui sillonnaient toute la Russie soviétique avec dans différents wagons des musiciens, des chanteurs, des costumiers. Il y avait aussi des tramways à Moscou qui circulaient comme ça avec des orchestres dans chaque wagon, des bateaux, on a vu plein de formes diverses et variées de moyens de transport. C'était des troupes itinérantes, amateurs, et qui allaient jouer là où les gens se trouvaient, c'est-à-dire dans les bars, devant les usines, dans les cafés sur la place, devant les marchés. Donc c'était vraiment un phénomène très spontané, très populaire, très libre dans la forme, très court et qui à chaque fois parlait de sujets de société. Donc on l'a vu là, c'était des ouvrières qui parlaient de la nécessité de mettre en place des crèches dans les usines, de sorte à ce qu'elles n'aient pas en plus à s'occuper des enfants, qu'il y ait des blanchisseries pour qu'en plus en rentrant du travail il n'y ait pas en plus à faire la lessive et toute une forme de mise en place de moyens pour l'émancipation des femmes. Donc c'était très 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 novateur, très révolutionnaire à l'époque. Mais bon, après, si on fait le parallèle d'aujourd'hui, la grande part du travail domestique reste en majorité aux mains des femmes. Et ça, je pense qu'on ne vous apprend rien en vous disant ça. Concrètement, la blouse bleue, ça a été en 5 ans, donc de 1917 à 23, je pense. Ça a été plus de 13 000 représentations rien qu'à Moscou, qui a touché plus de 6 700 000 spectateurs. On voit des troupes qui se revendiquent du collectif La Blouse Bleue. Il y en a 80 rien qu'en Allemagne, mais il y en a aussi en Tchécoslovaquie, en France, en États-Unis, jusqu'en Chine. Et l'originelle Blouse Bleue, elle a joué 6300 fois en URSS devant plus de 3 millions de personnes, donc ce qui est assez incroyable. On a du mal même nous à faire la comparaison avec des troupes qu'on connaîtrait autour de nous. Donc on peut distinguer plusieurs périodes en fait dans la création de la blouse bleue, parce que comme je vous le disais en fait en introduction, c'était pas si simple que ça à l'époque, puisque à la base c'est c'est une démarche qui est spontanée, puis qui petit à petit va être contrôlée par le pouvoir en place, qui va être censurée par un pouvoir qui veut savoir ce qui est dit en fait au nom de la révolution et de l'idéal soi-disant socialiste, puisque petit à petit le régime qui promettait l'émancipation, l'égalité, le bonheur, la fin de l'exploitation va se transformer en une dictature qui va tout simplement mettre en place un capitalisme dur, étatique, où les libertés sont confisquées, mais où en plus la monnaie circule, la marchandise est toujours en circulation, le salariat existe, donc il n'a de communisme ou de socialisme que le nom. Ça fait qu'il y ait beaucoup d'artistes qui sont très désemparés, déroutés, puis beaucoup qui sont même arrêtés, hein, Puis on a vu la semaine dernière avec des artistes comme Maïkowski qui se suicident parce que leur idéal est complètement dévoyé. Mais pour revenir à la blouse bleue, eux, de leur côté, en fait, la direction va être divisée. Une qui va se concentrer sur la position officielle. Et donc la position officielle, c'est l'opéra soviétique, c'est les grandes pièces, c'est le vaudeville. Et la seconde fraction, elle va s'attacher à une ligne plus traditionnelle, plus originelle, avec une mise en place de cabarets rouges, des sketchs qui sont courts, libres dans leur forme et puis satiriques. On va peut-être vous lire en fait une deuxième petite pièce courte que a choisie Marie-Laure et qui s'intitule
« Les plus actifs contre toutes les maladies ».
Parce que donc du coup, on l'a vu, c'est donc des sujets très très très
sociaux.
Ouais, sociaux, simples, qui sont utilisés à chaque fois en fait de manière à ce que le message rentre bien. Et à l'époque, l'un des gros problèmes au début du XXe siècle, c'était la question de l'hygiène, de la propreté. Et donc les maladies, c'était une forme de tout simplement d'éducation populaire que d'expliquer aux travailleurs comment en fait se battre. Donc on a trouvé cette pièce très rigolote. Ça nous a fait beaucoup rire, surtout en fait parce qu'il y a des, vous allez le voir en fait, des personnages. Allégoriques tels que le pou ou le moustique. Donc vas-y, amusez-vous à jouer à un moustique ou un pou, c'est pas forcément facile. Bah, eux l'ont fait, donc on va essayer au mieux de rendre cette petite pièce. Et donc ce sketch d'agitation sanitaire appartient au répertoire de la blouse bleue, donc à partir de 1925 il a été joué. Les conditions d'hygiène héritées de l'ancien régime étaient telles que la plupart des troupes d'agitation abordaient le problème et que des troupes spécialisées ont même été créées et ont duré. Ce texte donne un exemple caractéristique du genre. Donc les personnages de cette petite pièce sont 1. Un pou portant une affiche typhus. 2. Un moustique portant une affiche malaria. 3. Poussière et tabac portant une affiche tuberculose. 4. Eau nature portant une affiche choléra et dysenterie. 5. Gonocoque portant une affiche blénorragie. 6. Spiroquette blême portant une affiche syphilis. 7. Culture physique, hein, c'est un personnage qui est en costume de sport avec un placard avec marqué dessus soleil, eau et R. Huitième personnage, c'est un ouvrier en blouse bleue. 9. Notre docteur en blouse blanche avec un drapeau en forme d'ordonnance, commissariat du peuple à la santé publique. L'ouvrier entre en scène et chante.
J'ai du mal à vivre dans cet univers. Malades sont mes pères et mères. Mes enfants se débattent avec la fièvre et ma femme est poitrinaire. Nul endroit pour prendre froid. Closes sont les fenêtres tout au long de l'an. Nous ne buvons que de l'eau nature. Dans la cour en débouche la tubulure. Mais nous sommes tous dolents, malades du ventre et de la tête. Et nous ne savons miette à cause de quoi, à cause de quoi.
Le docteur de derrière la scène.
Je vais vous le dire, moi.
Il entre et va vers l'ouvrier.
Salut, camarade, de la part du commissariat à la santé publique. En ma qualité de représentant du commissariat du peuple à la santé publique, je suis venu te dire que vous avez grand tort. Tu crois que les maladies par les fenêtres viennent du dehors. Mais ce n'est pas du tout là que j'y languille. Toutes les maladies sont causées par des bacilles. Je vais à l'instant tout expliquer par le menu. Reconnais-le. Reconnais-le. Tu vis assez malproprement. Dans ta chemise, un pou s'installe souvent comme chez lui.
Eh ben, ça arrive, quoi, naturellement.
Voilà. Et toi, tu penses un pou sans plus? Mais regarde donc ce que le pou t'apporte avec lui.
Le pou entre et chante.
Tout doucement, je me traîne sur la brave espèce humaine. Partout avec moi, je traîne les microbes du typhus. Bien que je sois menu, Qui me mettra la main dessus, hein? J'ai provoqué d'horribles tourments chez des milliers et des milliers de gens.
Mais l'eau nature occasionne plus de méfaits encore que les poux.
L'eau nature entre et chante.
À tout instant, an après an, là où il n'y a pas de canalisation d'eau, je propage au grand galop le vibrion colérique. Il se promène en liberté dans les usines et les fabriques. À profusion, il a sabré les ouvriers. J'ai fait passer bien des gens de vis à trépas, de dysenterie et plus encore de choléra. De choléra, de choléra, de choléra. Tu as conduit sans compter des gens au tombeau. À cause de moi, toujours de moi, l'eau. J'en tire gloire, il y a de quoi. Partout je porte le choléra.
Aïe, 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 aïe. Que de tort à cause de l'eau nature. Il n'arriverait pas malheur. Je viens de boire un plein puisoir. Je vais bientôt mourir du choléra pour sûr.
Nous allons vérifier à l'instant. Ouvre la bouche.
Ah,
tu as mal au ventre.
Non, j'ai eu mal il y a 2 jours, mais c'est passé. Ça n'a fait qu'un tour.
Bon, ça veut dire que tout s'est arrangé. Ne bois plus d'eau nature, ce sera assez.
Je ne boirai plus jamais de ma vie.
Dis-moi donc, mon ami, y a-t-il des mares dehors, près de chez toi?
Un vrai cauchemar. Pas seulement au dehors. Dans l'entrée, j'ai une mare.
Les anosphèles, dans l'eau stagnante, prolifèrent. Pas étonnant que tu sois mal portant. La perdition des adultes et des enfants. Les anosphèles portent la malaria. Contre eux, à mort, il faut mener le combat. Regarde un peu ce que le moustique tient dans ses bras.
En peloton bien ordonné de temps, nous portons le paludisme dans toutes les entreprises. Et la mare boueuse est dans les temps, nous vivons à notre guise. Nous répandons la terreur dans l'humanité. Et en toute liberté et tranquillité.
Penses-tu, une si infime bestiole peut-elle être un ennemi si redoutable?
Oui! Des ennemis dans tous les coins. De ta santé, prends mieux soin. Mais, disais-tu, ta femme est souffrante?
Elle se meurt complètement. Elle tousse tant qu'elle est épuisée.
Assurément. Il faut accuser la tuberculose et ses alliés.
Poussière et tabac entrent et chantent.
Celui qui fume jour et nuit, qui a un faible pour l'eau de vie, par sa maudite marotte à la tuberculose prête main forte. Le malade crache à terre. Le contagion est propagé par la poussière. Les microbes archimenus sont invisibles à l'œil nu.
Petit pois, viens danser, mon roudoudou.
Oui, nous allons danser. 1, 2, 3, hop là, de nos poutifiques la java.
Moi, en qualité de tango, je propose de danser le tango.
Le docteur et l'ouvrier conversent à voix basse. Les microbes dansent. Le docteur.
Suis mon conseil. Vois, ces graves maladies sont dues aux gonocoques. Aux spiroquettes blancs, des microbes de haut rang.
Entre le gonocoque et le spiroquette, ils chantent.
Nous voici les gonocoques et les spiroquettes.
Nous avons fait passer le goût du pain à bien des humains.
Nous causons des ennuis au peuple travailleur.
Nous répandons en tout lieu syphilis et blénorragie.
Il est aisé de nous mettre en fuite si le médecin se précipite, mais le malade se croit déshonoré et ne veut pas se confesser.
Le gonocoque.
Toi et moi, spiroquettes, partout nous sommes alertes.
Ah, combien nombreux sont ici nos amis. Toutes les maladies et leurs alliés se rassemblent.
Les hôpitaux, camarades, sommes notre glas. Tous nous détestons la propreté.
Je propose de faire notre unité pour liquider collectivement les vanitiers.
Parfait.
Parfait, mais parfait. D'accord, c'est entendu. Maladie de tous les pays, unissez-vous dans notre morbido trust.
Nous.
Ouais.
Nous.
porteurs de toutes les maladies, main dans la main, nous savons avancer et tuer des ouvriers jour et nuit pour faire périr le peuple ouvrier.
Il a vécu, mon frère, le prolétaire. Il a péri pour toujours. Cette horde tout entière nous tuera, et la nuit et le jour.
Ne perds pas courage, camarade. Haut les cœurs. De toutes les maladies, nous serons sauvés par la gymnastique et la propreté. Vous dansez à présent, mes seigneurs. Ici, culture physique montre le nez.
Oui, c'est moi.
Mmh. Que de linge propre, toi et ta famille, n'userez.
Le linge, oui.
Ô nature, ne boirez pour n'être pas contaminée.
Oui, oui, le choléra, je sais.
Pour ne pas prendre les fièvres, les mares, assécherez.
Les assécher, je le ferai.
La poussière, chasserez, si d'être poitrinaire n'avez envie.
C'est un fait, on n'en a nul souci.
Voilà, ce sera votre affaire. À présent, je vous le dis tout net. Hein. Les choses iront comme sur des roulettes. Désormais, tu ne seras plus grabataire.
Oui, oui. Ah oui, 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 ah oui, oui, oui.
Allez, à Playa, on va tous faire des exercices.
Ah. Ainsi, nous enterrons la vie passée pour que le prolétaire vive dans la propreté contre la morbidité. Sachez, camarades, ce qu'il faut faire.
Eh oui, culture physique, il faut en faire une priorité. Et
la propreté.
Voilà devant vous un exemple irréfutable, comment vaincre les microbes méchants. Comment leur déclarer une guerre implacable et les réduire partout à néant.
Il est aisé de les écraser, il suffit à tous de s'y atteler.
Vivre sans bactéries est épatant, tuons-les tout au complet.
Pour sortir les prolétaires de leurs ténèbres séculaires, mets-toi, camarade, à la culture physique, anéantis les maladies.
Ils sortent et chantent sur l'air de Plus fort la musique.
Ainsi, détruisons les bactéries chez nous, dans la République du travail.
Les plus actifs contre toutes les maladies, ce sont l'air, l'eau et le soleil.
De Jean-Claude Massoulier, Maurice Blanchot, chanson sans calcium. Curieuse manière,
c'est une
chanson sans issue qui rampe dans la rue.
Elle est désastreuse.
C'est une chanson imbécile écrite par un bacille pour une intraveineuse. 33, 33, 33, 33, 33, 33,
33. Le seul avantage qu'elle a,
cette chanson rap-la-pla,
il est sur la pochette.
Vous ne courez aucun risque, est coupé sur le disque.
La petite vignette.
Découpez-la soigneusement,
postez-la sur le champ.
Faites-vous porter mal et vous serez, croyez-moi, tous remboursés par la sécurité sociale. Tourne-toi.
Et vous êtes bien sur le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis. Aujourd'hui, une émission spéciale sur le théâtre d'Agitpropre et en particulier sur la Blouse Bleue, cette troupe qui a fait beaucoup de spectacles entre 1923 et à peu près 1930. Pourquoi 1930 ? Puisque à partir de 1927, la direction est divisée, comme on le disait, en deux. Puis en 1928, très rapidement, l'Union des syndicats de Moscou, c'était à la base la structure dont dépendait la Blouse Bleue, décide de supprimer la revue papier, puisque donc ils faisaient des journaux vivants et puis une revue papier qui s'appelait la Blouse Bleue. Et puis dans un deuxième temps, ils vont reprendre la direction en imposant leurs hommes à eux. Donc ils vont tout simplement liquider les anciennes personnes qui un peu faisaient le cœur. Dirigeant artistique de cette troupe. Et puis ils vont préconiser exactement la même politique artistique. Donc, c'est-à-dire ils vont dire il faut faire des cabarets d'agitation, il faut que ce soit des choses qui soient courtes, qui soient didactiques, à l'usage des ouvriers. Bref, en fait, en gros, ils disent en gros on reprend la direction parce que vous faisiez les choses mal, mais ils préconisent de faire exactement la même chose. Donc c'est un peu bienvenu chez Kafka. Puisque c'était tout simplement en fait pour casser l'élan artistique qu'il y avait jusqu'ici. Et en 1930, tout s'arrête faute d'enthousiasme, puisque la nouvelle direction en fait elle fait pas grand chose. Donc on l'a vu avec ces deux petites pièces sur le travail ménager et sur les maladies, que il y avait des personnages qui étaient des allégories. On a vu des personnages tels que le poux, la blénorragie, enfin non, on l'a pas vu celui-là, mais bon.
Le travail ménager.
Le travail ménager, ça c'est trop drôle, quoi. Interpréter le travail ménager, c'est pas forcément évident. Et donc, toutes ces petites pièces, en fait, il y avait des personnages tels que l'homme politique, le policier, le militaire, l'ouvrier. Donc, il y avait même des abstractions telles que la monnaie d'un pays. Ou alors un pays, tout simplement. Un pays qui joue. Donc voilà, c'était pas forcément facile. Et puis les thèmes qui revenaient régulièrement, c'était ceux de la politique internationale, du commerce, les syndicats, la lutte contre les religions. Mais bon, donc on l'a vu aussi avec l'illustration des deux autres pièces. On en a parlé un petit peu, mais les représentations, elles étaient mobiles. Il n'y avait pas de décor. Très peu de décors. Alors déjà parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de moyens, en fait, pas beaucoup de moyens financiers pour faire leur spectacle. Et puis aussi comme du coup ils devaient jouer un peu partout et se déplacer énormément, déplacer des décors, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Mais par contre, il y avait pas mal d'accessoires et des accessoires donc très figuratifs. Donc par exemple pour l'homme politique, le capitaliste, il y avait les gros cigares, les grosses montres. Il y avait des écriteaux et des accessoires pour expliquer qui était qui. Et puis, il n'y avait pas de costume non plus. En fait, ils étaient tous en blouse bleue, avec simplement des accessoires. Et un truc que j'ai pas dit, c'est qu'ils étaient masqués. Ils avaient des masques assez figés, assez grotesques, toujours les mêmes pour les personnages emblématiques. Et pas... Et voilà, une sorte d'uniformisation avec la blouse et pas vraiment de mise en avant d'un comédien en particulier. Aussi, il y avait une forte importance mise du coup sur la voix, sur le son, sur le mouvement, vu que tout le reste de ce qui forme un spectacle était très stylisé. Et ça, ça vient en fait à la base d'une traduction de lecture à haute voix des journaux dans les clubs. Parce que donc... le fait de petit à petit lire à haute voix les journaux, ça c'est, ils ont fait intervenir après du chant, des chœurs, de la musique révolutionnaire aussi. Et du coup, c'était pour créer une sorte de dynamisme avec du rythme, des effets sonores. Et par exemple, ils voulaient pas du tout être dans un théâtre figuratif, un théâtre naturaliste, un théâtre on joue pas vraiment un pou, on joue pas vraiment un moustique, mais c'est très, très, c'est un peu comme Brecht en fait, avec cette sorte de distanciation. Merci. Et c'était très loin en fait des sentiments vécus à la Stanislavski, comme on nous les enseigne à l'école. C'était plus une dynamique collective, jamais dans la reproduction d'une réalité. Et ça, c'est vachement inspiré de la biomécanique de Meyerhold, où les corps et le mouvement forment une image sur la scène. Donc il y avait toute une formation collective pour illustrer avec cette façon particulière de jouer.
Puis hein, je pense qu'il y avait la nécessité de parler à tous, et à l'époque... Je pense que le taux d'alphabétisation était vraiment très, très bas. Donc, c'est sûr que s'appuyer... Il y avait des pancartes. On a vu dans la première pièce qu'on a lue, la pièce pour le travail ménager.
Il y a les pancartes, mais elles sont faites comme une petite scéno, mais elles sont parlées, elles sont dites. Pour plus... un rôle d'éducation aussi, beaucoup, dans ces pièces. Oui.
Parce que les gens, de toute façon, il y avait très peu de gens, pas tant que ça, qui savaient lire, quoi. Ouais. Donc il fallait que ce soit très, très direct, très simple, très ludique, et que tout le monde comprenne tout de suite, quoi. Avec des codes.
Avec les chansons aussi, ça met non seulement du rythme dans la pièce, mais aussi ça a un côté ludique et ça a quelque chose de. Qui reste aussi dans la tête beaucoup. Donc au niveau de la propagande, c'est un outil qui a été utilisé dans ces pièces-là, qui marchait bien.
Mais on parle comme ça, hein. Mais c'est intéressant parce que le mot propagande, on a vu comment ça s'est transformé, comment c'est devenu hyper négatif, mais d'une manière tout à fait simple, c'est propager. Propager une idée, et puis après chacun fait son choix, enfin une idée que tu penses juste, et puis après chacun fait son choix. Mais
en fait c'est ça qui est rigolo dans ces pièces là effectivement, on redécouvre le mot de propagande et d'agitation qui est vraiment là, on sent un mouvement de libération et du peuple, vraiment du
qui
peuple,
a rien à voir
une parole du peuple et négatif. Qui a rien à voir avec maintenant ce qu'on en pense, qui a été repris par des dictateurs et non plus par le peuple en fait. Et c'est là où on voit une différence de sens en fait avec maintenant et même avec l'histoire, comment ce mot a été, comment en tout cas ce mot, ces outils ont été récupérés par des personnes qui, du coup, ont joué peut-être sur le fait que c'était quelque chose qui est parti du peuple pour dire « je suis le père sauveur, donc je vais utiliser les mêmes outils que vous
». Enfin, c'est totalement négatif.
C'est
enfin,
des questions que je me pose en même temps, mais c'est vrai que...
Ce mot est totalement négatif, alors qu'en fait...
C'est pour justement éduquer d'abord, et pour que les gens se responsabilisent aussi dans leur... pour qu'ils sachent, et après de se débrouiller eux-mêmes, et ensemble, et créer des choses comme les garderies, des choses comme ça, pour... Voilà.
Mais c'est rigolo par rapport à la première pièce, d'ailleurs, sur le travail ménager et l'ouvrière. Comment ça a pu résonner après, dans les années 60,
Parce qu'on n'a pas évolué depuis.
Ouais, non, mais c'est ça. Avec l'image de la femme au foyer.
Bah, parce qu'après la guerre, en fait, elles ont beaucoup participé, elles ont beaucoup travaillé, etc. Mais après la guerre, le retour des années 50, la femme au foyer, femme... papa au boulot, maman au fourneau.
Ouais.
C'est resté quand même.
Mais c'est marrant parce que donc les femmes demandent la garderie, la pouponnière, etc. La blanchisserie, un atelier de couture, la cantine. Et c'est marrant parce que c'est des choses. Maintenant, c'est un peu comme péjoratif, je trouve. La femme moderne, oui, ben son gamin il a la crèche, etc. Enfin, je sais pas, c'est toujours un peu compliqué ce sujet.
Ouais, mais c'est
de
que
la...
là, ça se faisait de façon collective.
Ouais,
alors
voilà.
Qu'aujourd'hui c'est individuel et
c'est
du coup,
ça.
C'est autrement.
Ouais. Mais c'est vrai que ça pose question parce que là, en tant que femme, par exemple, en lisant ce texte, on se dit ben ouais, carrément, ben on veut plus de sommeil, plus de repos, donc il nous faut des garderies, des cantines, et c'est vrai qu'à l'heure actuelle,
ça les garderies, les cantines, on les a.
Ouais, on les a.
Pas pour tout le monde.
Pas pour tout le monde. Pour tout le monde. Et
parce
puis...
que franchement, il y a des tonnes d'attentes, et puis bah ceux qui ont les moyens faire garder leurs enfants, ben. Ouais, ils embauchent quelqu'un à domicile. Mmh. Sinon, t'as 2 ans d'attente en placement crèche. Donc, il n'y a pas tous les moyens. Et puis, alors, eux, ils demandent des garderies dans les lieux de travail.
L'organisation du travail.
L'organisation, ouais.
Au-delà du rapport homme-femme, moi, j'entends aujourd'hui qu'on intègre le travail à notre société parce qu'il y en a la nécessité. Puisqu'on est censé produire quelque chose qui sert à un plus grand nombre. C'est pour ça qu'on est ensemble et qu'on s'organise. Mais il n'y a pas d'organisation du travail. C'est comme si c'était quelque chose qui était
à part
de notre vie d'humain. Oui. Et en plus, on nous demande que notre vie soit... Enfin, comment dire,
On s'adapte
au travail.
Au marché,
alors qu'en fait, il n'y a pas de corrélation. Oui. Et au-delà de la question... homme-femme, parce que maintenant on est quand même encore pas mal de gens, il y a encore cette les femmes qui s'occupent de ça et les hommes qui s'occupent d'autre chose, mais aussi aujourd'hui en France quand même on a aussi les hommes et les femmes qui veulent avoir le même temps pour être avec leurs enfants, pour travailler, etc. C'est plutôt dire comment on organise notre travail, parce qu'on a parce que chacun a sa vie, chacun a ses besoins. Personne on fait les choix d'avoir des enfants. Ça existe, c'est le cas. Donc on va pas faire semblant qu'on a tout notre temps pour travailler. Enfin, c'est pas possible.
Oui, c'est surtout redonner une valeur à ce mot de travail. Là, si l'allégorie travaille dans une pièce d'agite propre qu'on écrirait aujourd'hui, ça serait effectivement, comme vous disiez toutes les deux, Marie-Laure et Laetitia, quelque chose qui est hors de l'humain, quoi. C'est même un humain qui va au travail, ça reste quelque chose de déshumanisé complètement
Travail n'est pas fait pour l'homme, la preuve, ça le fatigue.
Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est juste redonner au travail sa juste valeur, en fait,
d'une manière objective,
oui,
concrètement.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est sûr que si on parle du travail, il faut voir. Qu'est-ce que ça veut dire le travail dans une société idéale? Ce serait le travail pour le bien commun, pour qu'en fait on produise en fonction de nos besoins à tous et que ce soit distribué en fonction de nos besoins. Et là aujourd'hui, on est loin d'être le cas. En fait, cette pièce, elle résonne avec beaucoup d'actualité parce qu'elle, ces pièces datent de 1925. Ces mouvements d'agitation, ils voulaient une société où il n'y ait pas d'extorsion de plus-value, de profit sur chacun de notre travail. Et puis, Hier comme aujourd'hui, le travail c'était aliénant, c'était pas quelque chose de choisi, c'était pas quelque chose d'épanouissant forcément. C'était ce qu'on avait, ce qu'on trouvait, et c'est ce qu'on trouve aussi aujourd'hui pour pouvoir payer le loyer, remplir le frigo, se déplacer.
C'est de la rentabilité pure, quoi.
C'est travailler pour en fait pouvoir juste retourner au boulot le lendemain, en fait. C'est avoir de quoi manger pour retourner au travail le lendemain. Mais pour revenir du coup à la blouse bleue, on disait qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits qui nous sont parvenus jusqu'ici, en fait. Puisque on en a retrouvé trois là dans l'édition, je vous recommande. Donc du coup, ça s'appelle Théâtre années 20. C'est publié par L'Âge d'Homme. Et donc là, il y a quelques pièces qui sont sorties de l'histoire, sorties des oubliettes. Donc on l'avait dit la semaine dernière, d'une part parce que c'était beaucoup une tradition oralisée, d'autre part parce que le stalinisme est passé par là et a détruit tout ce mouvement spontané d'agitation populaire. Mais aussi, du coup, parce que je pense que il y avait aussi des pièces qui étaient écrites collectivement, qui ont été consignées, et puis d'autres qui étaient jouées par... qui étaient écrites par d'autres poètes ou dramaturges. On l'a vu notamment, Marie-Laure, avec une pièce qu'on n'a pas pu lire en fait aujourd'hui, faute de temps.
Radio Octobre, écrit par Mayakovsky, pareil, en 1925. Voilà, qui a été jouée par La Blouse Bleue... pour l'anniversaire, le 9e anniversaire de la Révolution d'octobre. Voilà. Et après, cette pièce a été rejouée aussi en mai, qui a du coup s'est appelée Radio Mai, et qui a été aussi traduite en français. Donc ça aussi, c'est vachement intéressant. Même nous, le fait qu'on retrouve des textes traduits, enfin, c'est hyper intéressant, parce qu'on a énormément de mal à les trouver, et en fait, il n'y en a pas beaucoup qui sont traduits. Alors je pense qu'il y en avait... Il y en avait énormément de textes que du coup, nous, pour se rendre compte, on n'a pas beaucoup de matière.
Voilà. Ah, quand on sait qu'il y avait plus de 7000 collectifs qui sillonnaient toute l'Europe pour jouer des pièces et qui jouaient tous les jours.
Et que du coup, nous, on en a de La Blouse Bleue, je ne sais pas, on doit en avoir 4, dont 3 qui ont été écrites par La Blouse Bleue et une par Mayakovsky. Donc sur 7000, ça n'avait pas beaucoup de traces, en fait. Voilà.
Bon, voilà, je pense que sur la question de La Blouse Bleue, on a fait un petit peu le tour. Je vois que Combor n'est pas là, je pense que c'est normal. Tout est normal. Donc je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine après avoir écouté une petite chanson de Léo Ferré, L'Oppression. Et la semaine prochaine, c'est quel jour?
Vendredi 20.
Ah, vendredi 20 mai.
Oui.
20 avril.
J-2 avant le grand dimanche 22 avril.
Ah oui, donc du coup, je m'en souviens. Merci, Nolwenn. Donc du coup, le 20 avril, on invitera Sarah Seignobosc qui va nous parler d'une pièce qu'elle est en train de monter à partir de textes d'Hervé Guibert. Et donc, on lui offre une carte blanche à l'antenne pour, pendant une heure, qu'elle nous parle de ses projets de création artistique autour de ces textes-là. Et puis, pour ceux qui sont impatients de connaître la suite, le 27 avril, on invitera Élodie Arrochamp, encore une fois pour une carte blanche invitée, qui, elle, veut faire du théâtre de rue, donc on est un peu dans la thématique d'aujourd'hui, et faire crieur public dans les rues de Lyon. Elle vient de Marseille et donc elle va nous expliquer son projet de théâtre d'intervention populaire et publique dans les rues. Et donc je vous laisse avec Léo Ferré, L'Oppression. Merci Marie-Laure.
Merci.
Merci Nolwenn. Merci Laetitia.
Merci les filles.
Et puis à la semaine prochaine pour le théâtre de la Gamelle.
prêts à tout, même à tenir des armes dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens, avec les yeux fardés d'horreur et de rêve. Regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Tes yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier, dans les couloirs glacés de la nuit conseillère, et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde-la flâner dans l'œil de tes copains, sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains, qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ces yeux qui te regardent, et la nuit et le jour, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes, et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux.